Vous écoutez France Culture.
C'était le maréchal Rommel. Je l'accompagnais d'une pièce à l'autre dans toute la maison, de la bibliothèque à la cave. Et lorsque nous revînmes dans l'immense hall aux grandes baies ouvertes sur le plus beau et le plus pur paysage du monde, je lui offris un verre de vin du Vésuve provenant des vignobles de Pompéi. « Prost !» dit-il en levant son verre. Il but d'un trait, puis avant de s'en aller me demanda si j'avais acheté ma maison toute faite ou si je l'avais dessinée et construite moi-même. Je lui répondis, et ce n'était pas vrai, que j'avais acheté la maison toute faite. Et lui montrant d'un geste lent et large la paroi à pic de Matromagna, les trois gigantesques rochers des Faraglioni, la péninsule de Sorrente, les îles des Sirènes, le bleu, le vert et le pourpre de la côte d'Amalfi, et là-bas au loin l'éclat doré du rivage de Pestum, je lui dis, moi, je n'ai désigné que le paysage. Io ho disegnato il paesaggio. Arzo, s'écria Rommel. Et après m'avoir serré la main, il sortit, je restais sur la porte pour le regarder gravir l'escalier taillé dans le roc qui de ma maison monte à Capri. Tout à coup, je le vis s'arrêter, se retourner, me fixer d'un regard dur, puis se retourner et partir. Kurt Erich Zuckert, dit Curtium alla parte, la pelle, 1949, traduit de l'italien par René Novella, la peau de Noël, 1950. Métropolitain. Nous recevrons aujourd'hui le paysagiste Alexandre Chemetov. Un mot pour commencer à propos du dernier numéro d'une revue assez peu connue, qui est très remarquable, c'est une revue scientifique qui s'appelle Nuance. C'est l'organe de l'Association internationale pour le respect de l'intégrité du patrimoine artistique, ça s'appelle ARIPA, une association créée en 1992 afin de lutter contre les restaurations abusives et contre un certain nombre de pratiques des institutions culturelles, des musées notamment, pas seulement des antiquaires ou des marchands, comme le nettoiement, comme certaines restaurations, et surtout la circulation abusive est extrêmement destructrice des œuvres d'art de musée à musée, de pays à pays. Nuance est édité à raison d'un ou deux numéros par an, c'est le numéro 40-41. Un dossier de la dernière livraison est consacré à un moment particulier de la peinture de paysage française entre l'âge classique et celui de l'impressionnisme. Il est de Paul Pfister. On y découvre comment les peintres à l'huile avaient, surtout au XIXe siècle, l'habitude de restituer certaines impressions atmosphériques, des lointains, des effets de brume, des reflets sur une mare ou sur un lac, au moyen de vernis adaptés, des glacis, des jutages, qui variaient parfois à la surface d'un même tableau. Donc, vous avez une partie qui était glacée et une partie qui était mate. C'est-à-dire que le vernis n'était pas seulement un moyen de protection, qu'on pourrait aujourd'hui décaper au prétexte de restaurer le tableau, surtout si le vernis a jauni, pour le remplacer par un autre vernis, mais c'était un moyen d'expression très nuancé et qui venait ajouter à la composition du tableau et à ses couleurs une gamme de sensations subtiles, on pourrait dire vraiment souvent atmosphériques. Le dossier fait 14 pages, il traque chez une vingtaine d'artistes, peintres de paysages, de Lauterbourg à Michalon, Delacroix, Corot, Théodore Rousseau, Millet ou Courbet, toutes ces variations de la brillance et du vaporeux. Il y a 17 illustrations qui, chose assez extraordinaire, je n'avais jamais vu ça dans le corps même d'un article, sont soit laissées mates, soit vernies, soit pour partie vernies. Donc vous avez une partie de l'image qui est vernie, une partie qui est mate, comme une source de la Loue de Courbet de 1863, dans laquelle le rocher est mat et dans laquelle la Loue, la rivière, est brillante. C'est extrêmement probant et extrêmement intéressant comme document. Ça s'appelle « Que reste-t-il de l'espace dans les paysages restaurés ?» C'est la revue Nuance, numéro 40-41. Le numéro de 2008-2002, oui, c'est 2009, c'est une revue qui paraît rarement. ARIPA, 48 pages, 12 euros. Thank you. Alexandre Chemetov, vous nous avez apporté cet air qui s'appelle « Well, you need », bien, vous n'en avez pas besoin. C'est un air de Thelonious Monk, ici dans une version d'Archie Shep de 2003. Tout à l'heure, on entendra les versions de Monk. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau-là ?
Parce qu'au fond, ça parle de l'interprétation et de la distance qui sépare deux périodes, 57 et 2003, et je pense que le travail sur la ville a à voir avec cette idée et de l'interprétation et d'une façon de revisiter, au fond, des périodes assez librement, comme ça.
Donc, d'une certaine façon, ça parle de votre doctrine d'urbaniste.
Oui, enfin, c'est pas vraiment une doctrine, c'est une, je dirais, c'est plutôt une construction.
Alexandre Chemetov, on vous a reçu dans cette émission qu'une seule fois, j'étais très surpris de ça. C'était il y a 9 ans, le 5 juillet 2000, le matin du jour où vous alliez recevoir le Grand Prix de l'urbanisme. Je dois avouer que c'est assez peu. En revanche, j'ai bien sûr beaucoup suivi vos travaux depuis très longtemps. J'ai visité avec vous des opérations plutôt exploratoires où il s'agit d'évoquer le tracé de la Bièvre, c'était très ancien. Votre agence qui est à Gentilly, au pied de l'aqueduc, on pourrait dire au pied des aqueducs, puisqu'il y a là des strates d'aqueducs successifs. Les serres agricoles dans lesquelles vous habitez, dans ce jardin. Les acs des deux centres, villes d'Arcueil et de Gentilly, où vous avez tenté aussi de faire réémerger un peu la Bièvre. Des travaux d'urbanisme à Rennes, à Nantes, à Blanquefort, près de Bordeaux, un peu à Nancy, j'ai un peu visité. Les quais du port Henri IV à Paris. Et puis j'ai visité sans vous le centre-ville de Boulogne-Billancourt, la plage du Havre où j'ai souvent été, avec ce magnifique aménagement là aux abords de Sainte-Adresse, les jardins de la Bourse de Lyon avec ses arbres en pot, je crois que ce sont des érables, hein, collection d'érables, et des buis peut-être aussi.
Oui, des buis.
Et puis les aménagements pour le tramway face à la gare de la Part-Dieu. Et puis autrefois, votre œuvre presque, on pourrait dire c'est votre première œuvre importante, le jardin de bambou du parc de la Villette. En revanche, il y a quelques œuvres que je ne connais pas encore. La place du Champ de Mars d'Angoulême, qui a été achevée il y a un an ou deux, c'est votre œuvre la plus architecturale, la plus classiquement urbaine, la plus construite, 25 mètres carrés avec un hypermarché, des parkings, du logement, etc. Ni les aménagements du parc Paul Mistral à Grenoble, qui s'est achevé aussi cette année ou l'an dernier. On vous avait apporté une musique, c'est une musique qui me paraissait évoquer un peu de votre imaginaire, enfin, en gros l'imaginaire aussi, je dirais, de notre génération. C'est L'étrangère de Léo Ferré, non pas interprétée par Ferré qu'on entend souvent, mais je crois qu'on va l'entendre par Marc Augeret.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai sans un sou vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrite. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison.
Voilà, Marc Augeret, donc septembre 92, la fameuse chanson de Ferré doit être des années 60, je ne me souviens plus bien, et le poème de Louis Aragon est extrait du roman inachevé. 1956. J'ai le sentiment comme ça que ces bas quartiers de bohémiens, les écluses, est un peu fait partie de votre ancien univers mémoriel, je dirais.
Oui, enfin, j'aime bien la promenade en fait. C'est-à-dire, j'aime bien la déambulation dans la ville, qui est à la fois pour moi, une source d'inspiration comme ça, et puis une façon de, au fond, d'inventer c'est presque pour moi les conditions de la nouveauté, c'est-à-dire la possibilité d'une réinterprétation de thèmes existants. Et j'aime bien, au fond, dans cette. C'est pour ça que cette exposition, d'ailleurs, s'appelle, qui se tient à Arc-en-Rêve, s'appelle Situation construite. C'est parce qu'elle fait référence à ces situations, à ces découvertes de ces situations, mais aussi à la possibilité de les transformer. Et que Je pense qu'il y a dans une certaine façon de sortir, au fond, de sortir l'architecture des studios, d'aller dans les quartiers des villes, à la découverte de lieux connus et moins connus, comme ça. Une des conditions, me semble-t-il, non seulement du renouveau, du renouveau et de la transformation des villes, mais aussi peut-être de ce qui peut fabriquer à partir au fond de ce travail d'urbanisme, d'architecture, de paysage mêlé, au fond rendre cet art populaire, c'est-à-dire lui trouver des origines qui soient des origines qui puissent être partagées par chacun.
Vous avez donc évoqué cette exposition, je comptais le faire plus tard. C'est une exposition qui se tient à Bordeaux pour tout l'été, on pourrait même dire pour tout l'été une partie de l'automne, puisqu'elle se termine le 18 octobre.
Oui.
Donc, et c'est une exposition qui se tient dans ces magnifiques locaux, très impressionnants, ce grand entrepôt de denrées coloniales qu'on appelle... qui s'appelle les entrepôts l'aînés et où est la structure culturelle Arc en rêve. Comment avez-vous saisi l'exposition? Je ne l'ai pas visité, on m'a dit qu'il y avait d'abord des visites, donc des sortes de vidéos.
Oui, c'est-à-dire que c'est... on a à l'invitation donc, d'Arc en rêve, de Francine Faure, de Michel Jacques, on a eu l'occasion de, au fond d'exposer un travail. Et... la proposition qu'on a faite a commencé par établir sur la rue qui s'appelle la rue Ferrer un échafaudage. Et cet échafaudage est un point de vue sur la ville. Quand on entre à l'intérieur des entrepôts l'aînés, donc on entre à l'intérieur d'un bâtiment très, très introverti, et on traverse le lieu qui est consacré aux expositions du CAPC, on montre un grand escalier vers la lumière, et là, on sort par une fenêtre pour aller sur un échafaudage, et depuis cet échafaudage...
Une porte-fenêtre,
On voit d'un côté les quais et la Garonne, et de l'autre côté, le jardin public. Et puis, en se retournant, on voit aussi la façade des entrepôts, la modénature de cette façade, on en voit la texture comme on ne la voit pas depuis le sol, et puis on voit les frondaisons des tilleuls plantés sur la rue Ferrer, et puis au loin le jardin public. Et à ce moment-là, on entre par une autre fenêtre à l'intérieur de l'exposition, mais ce détour par l'extérieur et en quelque sorte par l'épaisseur de la façade est comme une métaphore au fond du parcours de l'exposition.
On m'a dit qu'il y avait une sorte de cabinet des curiosités, que vous montriez beaucoup de choses auxquelles vous étiez attaché.
Oui, c'est-à-dire que
quel genre d'objet ou quel genre de choses?
D'une part, il y a une grande table sur laquelle sont disposés des livres qui sont donc avec des tabourets. Et donc, c'est aussi une bibliothèque. Donc, on peut s'asseoir là. Et puis, alors on y trouve, par exemple, sur cette table, pêle-mêle, la correspondance d'Éric Satie, puisque c'est en correspondance, justement, avec le parcours le long de la vallée de la Bièvre, ou encore un livre sur le travail de Lina Bobardi. Un livre de Patrick Bouchain qui s'appelle Oui avec plaisir, avec de l'autre côté, donc de cette sorte de bibliothèque et de collection comme ça de livres qui mêlent littérature, photographie, récit, au fond. Plus qu'une sorte de citation, mais plus qu'une citation, c'est la possibilité d'entrer aussi dans un certain nombre de textes. Il y a Henri Michaud à côté de Bertolt Doubetkin. Enfin, c'est-à-dire une sorte d'assemblage, une façon de rassembler des éléments à partir desquels se construisent des projets. Et puis, de l'autre côté...
À partir desquels se construisent des projets ou à partir desquels vous vous êtes construit?
Bien, les deux, c'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que ces projets sont une construction, et puis en même temps, ils ont à voir avec une forme d'engagement personnel, c'est-à-dire que ce travail et l'exposition, le travail que nous faisons, est aussi une façon d'échapper à la standardisation d'une certaine forme de commande, quoi.
Parlez dans le micro, hein, Alexandre. Pardon. Alexandre Chemetov, vous êtes né en 1950. Vous êtes, votre nom s'écrit avec deux F, Chemetov avec deux F. Vous êtes le fils du célèbre architecte Paul Chemetov, dont le nom s'écrit avec un V, et le petit-fils d'un peintre et graphiste qui s'appelait aussi Alexandre Chemetov, avec un V, je crois. Hein.
Avec deux F.
Avec deux F, comme vous, oui. Et qui se faisait appeler Chem, qui était un, notamment le graphiste de, très excellent de la Nouvelle Critique, par exemple. Vous avez été formé par Michel Corajou à l'école de Versailles, école de paysagisme qui s'appelait, je crois encore, école d'horticulture, quand vous y êtes entré en 1970. Oui. Mais qu'est-il resté pour vous de l'horticulture, ou du jardin, ou du paysage dans votre démarche d'urbaniste ?
Quand cette école a été fondée, c'est-à-dire la section de l'art des jardins de l'école d'horticulture, elle a été fondée en 1946 ou 47 par un décret du général de Gaulle pour reconstruire la France après la dernière guerre. Et au fond, cette histoire de la fondation de l'école renvoyait à une tradition aussi de l'urbanisme français, qui va chercher ses racines du côté de Forestier ou de et qui lui-même est issu de, comme son nom l'indique d'ailleurs, de l'école forestière de Nancy. Et donc cette conjonction entre l'histoire des jardins et une certaine façon, au fond, d'aménager la ville, d'aménager le territoire. En fait, je l'ai retrouvé dans cette formation à l'école de Versailles, et notamment dans l'enseignement de Michel Corajou, puisque, au fond, il nous proposait de considérer le monde qui s'offrait au regard comme la table des matières de cet enseignement.
Mais vous êtes resté très botaniste, quand même, aussi.
Oui, parce que je pense qu'il y a... ce que j'aime bien, c'est l'idée de la reconnaissance, au fond. L'exercice qu'on pratiquait à l'école d'horticulture s'appelait la reconnaissance des végétaux. Et j'aime bien ce terme parce qu'il lie, au fond, l'idée de la connaissance et de l'apprentissage à l'idée de la découverte, à la découverte des lieux, et donc de la reconnaissance de quelque chose qu'on pourrait y découvrir. Et cette idée de reconnaître quelque chose lie la connaissance qu'on peut acquérir dans les livres, comme ça, en suivant les cours, et puis les met en immédiate relation avec l'idée et la nécessité d'aller sur le site, éprouver, vérifier en quelque sorte ce qu'on vient d'apprendre. Et la reconnaissance, c'est ce mouvement qui va de l'intérieur à l'extérieur, de l'un à l'autre, au fond, et qui nous renvoie d'ailleurs au cabinet de curiosité dont on parlait de tout à l'heure à propos de l'entrée de l'exposition.
Je me souviens qu'ayant visité il y a très longtemps avec vous le quartier de Rennes, le quartier qui est un quartier important, 3500 logements au bord de la Vilaine, 40 hectares, dont vous n'avez pas été l'architecte, mais l'urbaniste coordonnateur, disons. Je me souviens à quel plaisir on passait de haies de houx, du prunelier, des ajoncs, des clôtures de bois ça ou là, des chênes fastigés, des ifs, des lauriers sauces, des charmes, des arbousiers, des mimosas, des poiriers. On avait un plaisir botanique très très grand, mais qui n'était pas tout à fait comme articulé comme dans un jardin, mais articulé comme ça pourrait l'être dans un ancien faubourg ou dans des chemins de creux de campagne. Enfin, il y avait un autre mode de disposition de toutes ces essences.
Oui, ce que j'aime bien...
C'était pas une collection,
non.
C'est plutôt des êtres qui étaient là, ça ou là.
Oui, parce que ça dit quelque chose au fond de la singularité des situations. Et quand on avait commencé le travail sur les bords de Vilaine, donc avec l'adjoint à l'urbanisme de Rennes qui s'appelle Jean-Yves Chapuis et qui est à sa manière un amateur de ville, on avait organisé avec le journal Ouest-France une visite. Et cette visite était aussi organisée par la Société d'horticulture. Et en fait, on a visité la ville de jardin en jardin, en suivant comme ça ce goût de la découverte pour les essences et les différences de situation. Mais insensiblement, on a parlé de la forme de la ville, de l'architecture, et de ce que signifiait finalement l'idée d'habiter un quartier et des conditions finalement de l'habitation. Et ce qui m'intéresse au travers de ça, c'est de se dire que au fond, l'entrée dans la ville par le biais de l'art des jardins, pose la question et de la forme urbaine et d'ailleurs de l'idée du confort, de l'architecture, de la construction d'une autre façon, parce qu'il renvoie à cette idée très particulière qui est liée à l'exercice, au fond, du travail qui consiste à choisir des végétaux en fonction des lieux, parce qu'on peut faire à peu près la même chose à partir de la construction d'un environnement habité, c'est-à-dire aller dans les carrières, choisir les pierres, repérer dans des choses existantes des indices ou des raisons de transformer les choses d'une certaine façon et de lier totalement le projet avec la découverte des lieux. Et donc c'est...
Y compris de leurs accidents.
Oui.
Y compris de leur mémoire, de leur...
Et y compris de choses qu'on n'avait pas prévues au départ, c'est-à-dire d'introduire dans la façon de conduire la transformation de la ville, la notion du temps qui passe, et de faire que le projet ne devient pas un dessin qu'on exécute, mais bien plutôt une interprétation, c'est-à-dire...
Vous disiez, oui, pardon. Vous disiez, non, mais vous disiez à propos de Rennes, construire dans un quartier plutôt que construire un quartier.
Oui, par exemple, on avait...
Pourtant, ce quartier qui existait, il y avait quelques pavillons, quelques hangars, il y avait assez peu de choses.
Mais il y avait assez peu et beaucoup en même temps, parce que comme... ce qu'on a commencé à faire, au fond, c'est à la fois de dresser une carte, d'établir une sorte de stratégie, et puis de se dire, on l'avait fait par exemple à propos d'un terrain qui était un grand terrain qui avait été acheté par un promoteur rennais qui s'appelle Giboire. Et donc il avait une belle parcelle rectangulaire le long de la Vilaine. Et il avait confié cette opération à un architecte qui s'appelle Christian Houvette. Et on avait proposé de garder un petit café avec un bâtiment sans grand intérêt, mais qui était déjà là. Et qui s'appelait
Chez Brigitte,
oui. Ce petit
café. Je me souviens
de
ça, oui.
Et ça avait beaucoup troublé et le promoteur et l'architecte qui se disaient « Mais vous nous empêchez finalement de faire un projet qu'on aurait pu librement développer sur cette parcelle. » Et cette difficulté, au fond, à avoir à composer avec ce bâtiment existant, a fait que cette opération... s'est progressivement attaché à cet endroit. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que quand les gens ont commencé à habiter dans cet immeuble, donc il y a eu une réunion des copropriétaires qui ont décidé d'organiser un déjeuner dans la cour de cet immeuble, et ils ont demandé donc au restaurant de leur préparer le repas. Et donc ce qu'on avait conservé, c'est non seulement une contrainte ou un immeuble qu'on aurait gardé pour ses qualités architecturales, mais quelque chose qui avait trait à une sorte de permanence de la ville.
Quoi. Même chose à Nantes, dans l'île de Nantes, dont vous êtes l'urbaniste depuis quelques années, depuis 10 ans, dans laquelle vous avez conservé un petit immeuble en pierre, extrêmement abîmé. Il y avait des ornements, comme ça, des moulures, et tout ça était assez érodé. Et puis un petit toit en tuiles, pyramidal, noir. Et vous l'avez conservé juste à côté d'un immeuble de Dussapin et Leclerc qui monte à 9 niveaux. Donc il y a un effet comme ça de collage, mais c'est un peu comme si vous constituiez, excusez-moi, ça va peut-être pas vous plaire, mais une sorte de décor de cinéma un peu pittoresque.
Oui, alors ça ferait référence Oui, mais on n'est justement pas tout à fait dans cette veine-là. Alors, bien que j'apprécie le travail d'Alexandre Tronner ou de décorateurs comme ça,
qui ont représenté
la ville, mais je pense qu'il y a une extraordinaire modernité ou actualité de cette question. Et pour revenir sur le travail que nous avons fait avec notre atelier, donc l'atelier d'Île de Nantes, on s'est servi au fond de l'état des lieux de cet îlot pour donner des raisons au plan masse et à la composition des bâtiments faits par Fabrice Dussapin. Et donc on s'est servi des volumes existants pour imaginer la façon dont on pouvait renouveler la construction sur cet îlot, mais surtout pour trouver dans les traces de ce qui existait, au fond, des raisons de différencier les constructions d'aujourd'hui. Et ce qui fait...
Donc, oui, sinon c'est le gabarit à cet étage qui s'impose.
Mais le premier projet d'ailleurs qui avait été fait sur ce terrain était un projet très uniforme, quoi. Et le fait de se servir, au fond, de la ressource du site, non pas comme une contrainte, mais comme quelque chose qui donnerait finalement une nouvelle dimension à cet imaginaire, ça a permis au projet de prendre une dimension tout à fait nouvelle, quoi. Et d'emprunter, au fond, aux éléments de l'état des lieux réinterprétés, les raisons de son renouvellement. Mmh. Et ce qui fait que cette opération entre le palais de justice et un immeuble de bureaux qui se trouve à côté est extrêmement varié. C'est pas simplement le désir de composition et de variété, c'est aussi un certain rapport avec quelque chose qui préexiste. Et donc ça déplace la question de la composition pour n'être pas seulement un exercice introverti, mais finalement une façon de dialoguer avec ce qui est alentour, et y compris avec ce qui existe et les traces sur le site, et puis de faire qu'on puisse se servir de la variété des choses existantes à un endroit comme une raison d'amener de la diversité dans la ville.
Chez vous, le projet d'urbanisme, on peut dire que c'est une œuvre, il est signé. On reconnaît votre patte. Si on va voir un quartier qu'on n'a pas vu, on imagine que c'est Alexandre Chemetov qui l'aura dessiné ou qui l'aura aménagé. Qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui doit faire œuvre dans un projet d'urbanisme, dans un projet urbain tel que vous le pratiquez, et qu'est-ce qui est du ressort de la négociation, peut-être, bien que vous soyez assez amis et assez proches de Patrick Bouchain, vous ne pratiquez pas vraiment la participation, mais il y a des moments comme ça où vous êtes en situation d'écoute.
Toujours.
Des gens même. Parce que vous avez écrit, par exemple, pour les quartiers, le petit quartier que vous faites à Blanquefort, hein, c'est une banlieue ouvrière, ou une usine Ford, je crois. C'est sur la rive droite de la Gironde, là, près de Bordeaux. Vous écriviez.
La rive gauche. Hein, c'est sur le Médoc.
Ah, c'est sur la rive gauche.
Oui.
Excusez-moi, c'est sur la rive gauche. Vous écriviez aux futurs habitants, chers habitants, bientôt, c'est à vous de prendre en charge ces petites maisons et de faire que l'histoire s'y installe. Est-ce qu'ils vous ont répondu d'abord, ces chers habitants futurs?
Ils m'ont répondu samedi dernier en organisant un pique-nique. Oui. Donc les premiers habitants, on a organisé avec eux un pique-nique. Et donc ils ont répondu en racontant justement comment eux-mêmes avaient l'intention de s'emparer de ces maisons qui sont donc des sortes de petits territoires entre des murs pour continuer cette histoire. Et je pense que, au fond, la ville, c'est un peu comme ça.
Effectivement, donc vous leur suggérez que les maisons, ils les transforment.
Oui, bien sûr. Oui. Parce que je pense que la finalité de ces maisons, c'est qu'elles soient habitées.
Donc les maisons ne sont pas des œuvres,
Elles sont des œuvres, comme la ville est une œuvre, comme la ville s'écrit à un instant donné comme une prise de position et une œuvre délibérée, mais une œuvre ouverte aux autres, c'est-à-dire ouverte à d'autres interprétations, à d'autres interventions. Exactement quand on fait, par exemple, à Angoulême, le centre commercial avec la CGC et qu'on fait, au fond, le réceptacle des commerces, chaque commerce s'installe à l'intérieur des boutiques avec sa propre identité, sa propre logique, ses propres produits. Et il est heureux, au fond, que la ville soit investie, que les maisons soient habitées, que les magasins soient occupés et qu'il y ait une certaine forme, non seulement d'occupation de tout ça, mais même de détournement, de provocation, pour faire que, au fond, c'est une œuvre, mais une œuvre inscrite dans le temps. Et qui n'est, elle est tout aussi déterminée s'agissant d'un morceau de ville que d'un immeuble ou qu'un jardin. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle a affaire avec l'altérité. C'est-à-dire, elle a affaire avec le fait que il ne faut pas qu'elle s'efface, finalement. Il faut qu'elle existe assez fortement, non pas pour résister aux autres, ni au temps, d'ailleurs, mais pour s'allier avec le temps et les autres, quoi. Et faire que ces maisons de Blanquefort dont vous parlez, il faudrait qu'elles soient plus belles habitées que vides, quoi. Et ce quartier, il prendrait son sens, et d'une certaine façon, on pourrait le photographier et en parler avec des gens qui l'occupent, et non pas comme un vide, comme la plupart du temps, on montre d'ailleurs les projets dans les livres ou les revues d'architecture, c'est-à-dire comme des décors inhabités.
Chez vous, il y a toujours eu une sorte de goût du travail humain, de la mise en œuvre, de la mise en forme, et d'un travail qu'on pourrait dire ininterrompu. C'est-à-dire que vous aimez mettre vos pas dans les pas d'autres gens, oui, ou d'autres moments historiques, et supposer que vous aurez des successeurs, que les choses vont poursuivre un cours imprévisible. J'ai l'impression quand même que depuis quelques années, et notamment à partir de vos opérations de Rennes, des bords de la Vilaine, et aussi beaucoup à Nantes, il y a une part d'interprétation plus littéraire. Je veux dire qu'on vous plongez plus dans des mémoires qui sont des mémoires, des rails de chemin de fer, des pavés, je veux dire dans une sorte d'avant ou d'après-guerre. Une espèce de passé comme ça, assez proche. Donc vous auriez peut-être la nostalgie qui serait celle qui a bercé les poèmes que vous lisiez enfant, par exemple. C'est pour ça que je vous ai accueilli avec de l'Aragon.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension, mais je ne sais pas si je parlerai de nostalgie. C'est-à-dire, pour moi, j'ai l'impression que notre temps, le temps présent, est un temps suspendu entre un futur et un passé, et qu'il y a une épaisseur aussi grande en avant et autant d'ailleurs d'imaginaire à explorer en arrière, finalement, des choses qu'on découvrirait. Et il y a dans l'exploration des choses existantes, au fond, l'idée qu'elles sont, à leur manière aussi, des aventures nouvelles. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est réuni comme ça, comme la mémoire, est aussi fait de successions d'événements qui, à leur façon, étaient des événements qui ont bouleversé les choses. Mais c'est intéressant que vous parliez de l'avant et l'après-guerre, parce que mon sentiment, c'est que le XXe siècle, au fond, a été marqué par les guerres, comme on le sait, mais aussi par une sorte de guerre des idées. C'est-à-dire cette idée que chaque période devait chasser la précédente, quoi, et s'établir en contrepoint de celle qui venait de se dérouler. Et il me semble que la question qui se pose au tournant de ce siècle, c'est celle que j'appellerais l'adoption, quoi. C'est-à-dire comment on peut adopter un certain nombre d'éléments qui sont pas seulement des éléments de la mémoire, mais des éléments constitutifs, finalement, de cette sorte d'accumulation, et notamment de l'accumulation du XXe siècle. C'est pour ça, en Nancy, on travaille sur la transformation du quartier du Haut-du-Lièvre. Et on a eu
les deux fameuses grandes barres qui constituent le plus grand bar de France, construites
par Bernard Zerfus. Et donc, on s'est intéressé à cette question de la réinterprétation, au fond, du bâtiment de Bernard Zerfus, qu'on a commencé à analyser comme une œuvre construite, quoi, et pas seulement comme un problème ou une source d'ennui, quoi. Et on a fait un appartement témoin. Qui était l'appartement témoin qui permettait, au fond, d'engager la transformation et la restauration de ce bâtiment. Et en faisant ce travail, on a appris aussi à la fois à comprendre la qualité du travail qui avait été fait en 1962 par Zerfus, et puis la façon dont on pouvait aujourd'hui, finalement, lui redonner une actualité, c'est-à-dire le rendre d'une part plus confortable, mais surtout de ne pas chercher à en changer l'image, quoi. C'est-à-dire de faire en sorte de se poser la question de savoir, oui, et sans succès. Parce que c'est pour ça que on parlait de l'interprétation de, par exemple, d'Archie Shepp par Thelonious Monk, pour moi, ou d'Archie Shepp de l'œuvre de Thelonious Monk, parce que je pense que le travail qu'on a à faire n'est pas un travail de nostalgie, mais véritablement un travail de réinterprétation.
Eh bien, on va réécouter cette œuvre, Well, You Needn't, mais dans la version originale de Thelonious Monk, 1957. Thank you. très peu de nouveautés dans le calendrier cette semaine, et par une coïncidence, Alexandre, à Châteauroux, une exposition de votre père, Paul Chemetov, l'architecte et la médiathèque. Ça se tient à la médiathèque avenue Charles de Gaulle, à Châteauroux. C'est une médiathèque qu'il a construite, j'imagine.
Je ne sais pas.
Vous
ne
savez
pas? Je ne pense pas, non.
Bon, fils indigne. Vous avez une grande dette à l'égard de votre père, du point de vue idéologique.
Oui, c'est-à-dire que j'ai surtout... parce que vous parliez de ma formation, au fond, au travers de l'enseignement de Michel Corajou, mais aussi au travers de la... De ce que j'ai appris de mon grand-père qui m'a élevé, et puis de mon père qui m'emmenait sur les chantiers, visiter la banlieue. J'ai des souvenirs très précis de tout ça. Mais je ne crois pas que ce soit une dette idéologique, parce que ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est son goût de la construction, quoi.
Oui.
Et le travail que j'apprécie le plus de tous ceux qu'il a fait, je crois que c'est la maison qu'il a construite pour lui en Ardèche.
À la Baume.
Qui est la transformation d'une ancienne magnanerie, donc industrielle, en une sorte de maison qui est en même temps un jardin. Et donc il y a là quelque chose qui nous rapproche et qui indubitablement quoi, m'a conduit à faire ce que je fais de cette manière-là.
Mais lui aussi a beaucoup aimé la banlieue sous ses diverses manifestations, a beaucoup aimé l'histoire de la banlieue, ses traces.
Oui.
Il a écrit des choses très belles sur ces questions. Lui aussi, comme vous, a aimé l'usure, la patine.
Oui, il le revendique comme une chose qui... comme l'usure du temps sur les constructions.
Il a écrit une fois, aurais-je à faire une simple grille, je m'efforcerais d'être fidèle à toutes les grilles et même à celles qui grincent.
Oui, c'est une belle phrase. Ouais.
Vous feriez la même chose un petit peu, vous-même.
Oui.
Quand je parle d'idéologie, c'est ça, c'est pas l'idéologie politique, c'est une espèce de capacité à s'imbiber d'une atmosphère populaire, quand même souvent, ou prolétarienne, et d'une petite...
Ou plus largement, je dirais, à penser que la construction, l'aménagement, le travail sur la ville est un travail culturel et d'une certaine façon une exception culturelle.
Je termine avec le calendrier Alexandre Chemetov. En Arles, une exposition de Philippe Ruot, qui est né en 1949, qui est un photographe d'architecture. Il a notamment travaillé depuis la fin des années 80 en photographiant les œuvres de Jean Nouvel, à commencer par l'Onyx de Saint-Herblain, parce que lui-même est nantais. Mais aussi Rogers, Colas, Fuxas et quelques maîtres anciens comme Loos, Le Corbusier ou Alto. En Arles, dans le cadre des rencontres de la photographie, il montre une pièce unique en 5 exemplaires à l'initiative de Michel Pasquier, qui est architecte et propriétaire d'une galerie, La Collectionneuse. Ça se tient à La Roquette, 17 rue du Roure, en Arles. Il y a eu un petit accident technique dont j'espère qu'on n'a pas entendu les cris sur les ondes, mais il semble qu'on ait perdu l'antenne pendant quelques minutes. Ça nous a permis d'écouter un peu plus Télé News Monk. Alexandre Chemetov, tout à l'heure, j'avais employé le mot doctrine, ça, vous avez un petit peu réagi. Hein, il y a quand même une démarche, Alexandre Chemetov. Quand vous semble-t-elle être apparue ou avoir mûri? Parce que je me souviens qu'autrefois, vous teniez un discours que pour ma part, je trouvais un peu conventionnel sur l'espace public, comme beaucoup d'architectes ou d'urbanistes français. Il y a 15 ans.
En fait, je me suis toujours appliqué à me servir, au fond, des projets comme un lieu d'expérimentation. C'est en ça que ça a été, peut-être, ce que j'ai dit a été peut-être mal compris. Et j'ai toujours essayé de faire avancer les idées avec les expériences. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai quitté l'enseignement, parce que j'avais le sentiment que l'exercice un peu académique, au fond, que supposait l'enseignement, m'enfermait à l'intérieur de propositions qui me semblait pas assez en liaison avec la vraie expérimentation des choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé, à partir d'un certain moment, de faire en sorte que l'agence, qui s'est appelée successivement le Bureau des paysages et qui s'appelle maintenant Alexandre Chametoff et Associés, soit un lieu véritablement de recherche, d'expérimentation, de découverte. Et de faire en sorte que les idées ou les... au fond, se révèle au travers de l'expérience des projets. C'est pour ça que j'ai décidé de parcourir assez librement, au fond, les champs disciplinaires, qui sont ceux à la fois du paysage, des jardins, de l'urbanisme, de l'architecture, de la construction.
Oui, puisque né jardinier, vous êtes devenu architecte en 1998, oui. Et puis vous avez reçu le Grand Prix d'urbanisme en 2000. Oui. Vous n'avez pas reçu le Grand Prix du paysage.
Non.
Vous êtes le Bureau des paysages est devenu Alexandre Chametoff et compagnie. Là.
Et associé.
Et associé. ça veut dire qu'une figure était née, Alexandre Chametoff.
Ça veut dire qu'il y a...
Votre nom devait
être... Ça veut dire d'une part qu'il y a des associés.
Oui.
Et que c'est un travail qui est aussi, de ce point de vue-là, un travail de transmission et de complicité. Complicité avec Patrick Henry, par exemple, qui est un des auteurs du livre et qui a composé l'exposition. Avec l'ensemble d'une équipe, c'est-à-dire que, et cette idée qu'on est dans un travail de transmission pose la question, au fond, pose la question de l'œuvre elle-même et de la position qu'on prend par rapport à ça et justement de la place des idées, des points de vue et du rapport qu'on peut entretenir entre les points de vue et les idées. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de ne jamais refaire deux fois, au fond, le même projet.
Et pourquoi Alexandre Chametoff est associé et pas aux petits paysagistes associés ?
Parce que je considère que la pratique, enfin je revendique une pratique libre au fond de l'exercice du métier d'architecte, de paysagiste ou d'urbanisme, mais pour le dire d'une façon plus générique, au fond d'architecte, quoi, pour se faire comprendre de la plupart de ceux qui nous écoutent et de ceux à qui nous nous adressons. Quoi.
Pour ce qui est de votre manière de projeter, vous ne prétendez jamais à l'intuition. L'intuition fulgurante, qui est une des marques en principe de la création architecturale, et notamment à l'image. L'image aujourd'hui, notamment l'image de synthèse, permet d'idéaliser un état futur, de l'offrir tel qu'il est supposé être, instantanément quasiment. Oui. Vous pensez que les images ne doivent pas arriver si vite ?
Oui, et je pense que les images sont des obstacles au fond. Je pense que l'exposition à Arc-en-Rêve, par exemple, il n'y a pratiquement pas d'image de synthèse. Je crois qu'il y en a une dans un coin qui nous a échappé à un moment donné. Mais on en a fait l'expérience récemment. On s'occupe à Saint-Étienne d'un assez grand projet sur la plaine Achille, donc ancien territoire industriel au cœur de la cuvette comme ça de Saint-Étienne. On devait faire une réunion publique pour parler du projet de transformation de la ville. Et les gens qui s'occupent de la communication nous ont dit « il faut montrer des images parce que les gens ne savent pas lire les plans ». Et donc on a fait une réunion avec des plans dans lequel on a pris le temps de lire le plan. C'est-à-dire, au fond, c'était une sorte de séance de lecture publique du plan.
Du plan existant.
D'un plan, du projet.
Du projet.
Qui était le projet d'aménagement de la plaine Achille, tel que nous l'avions proposé, tel que nous venions de le terminer, d'ailleurs. Et il y avait 250 personnes donc, qui étaient présentes dans cette réunion. On avait disposé une vingtaine de tables dans une grande salle. Tout le monde était assis autour de ces grandes tables, donc qui regroupaient une douzaine de personnes, les élus, les techniciens, comme les gens du quartier et les autres qui étaient venus. Et il y a eu comme ça une sorte d'atmosphère très studieuse autour de l'étude du plan et du commentaire du plan. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ça permettait de partager les choses. Et c'est pour ça que je disais que les images, d'une certaine façon, elles excluent l'idée du dialogue parce qu'elles le déplacent dans une sorte d'appréciation d'un avenir qui serait entièrement fini, quoi.
Ainsi, à Nantes, qui est un très gros projet, l'île de Nantes, 1 million de mètres carrés à construire, 7 000 logements, etc., vous avez établi, dès l'origine, un plan, ce que vous appelez un plan guide au 5 millième, qui est une assez bonne échelle, et dans lequel, constamment, on voit s'introduire les déformations que le projet subit au fil des ans. À Nancy, je me souviens que, d'abord, vous aviez dit combien la carte était révélatrice de ce que la ville est faite de fragments et que plusieurs villes coïncident dans ce qu'on appelle Nancy ou dans ce qu'on appelle Nancy et sa banlieue. Et puis pour le grand ensemble du Tilleul Argenté, du Cèdre qui est sur le plateau, vous aviez même fait imprimer une carte comme une sorte de grand tapis, de grand linoleum, et les gens étaient invités à y marcher pour comprendre comment s'articulait tel ou tel endroit.
Oui, et je crois aussi qu'il faut se servir, au-delà de la représentation cartographique, de véritables projets qu'on peut réaliser, c'est-à-dire de morceaux d'espace public, de la transformation, par exemple, des nefs, alors que le programme n'en est pas totalement fixé, pour faire en sorte que, au fond, la réalisation du projet soit aussi, ouvre un espace de discussion, ouvre un espace public dans ce sens-là, c'est-à-dire que chacun, parcourant les trottoirs, allant sous les nefs, découvrant une situation, peut véritablement donner son point de vue. Et c'est aussi pour ça qu'avec, par exemple, le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, à chaque fois que nous avions à nous rencontrer pour parler de ce projet, on marchait sur le site, quoi. Et on arpentait la ville, finalement, pour pouvoir parler de la transformation de la ville sur elle-même, et même, d'une certaine façon, comme condition de l'invention d'un programme, et de faire en sorte que les réalisations successives soient le support d'un imaginaire même du programme. Et c'est en ça que, dans mon esprit, le projet est une forme de dialogue social. C'est-à-dire que par rapport à l'idée classique que quelqu'un a l'idée de faire un projet, donc fait appel à un programmiste qui établit un programme. Et ensuite, on lance un concours et puis on essaie de trouver la meilleure réponse à ce programme. Je pense que l'idée de déplacer les choses et de se servir au fond de la ville comme un sujet vivant qu'on peut parcourir, inventer au fond des conditions de renouvellement de la ville sur elle-même, ça me paraît une voie infiniment plus démocratique que celle qui est habituellement suivie et qui introduit une telle distance de temps entre l'idée d'un projet et sa réalisation, une telle stratification administrative et bureaucratique qu'à la fin, finalement, l'imaginaire change de camp. Et si les images ont tellement d'importance, c'est que d'une certaine façon, les gens sont privés d'imaginaire. Et qu'il y a dans la ville réelle, dans les situations réelles, dans un circuit court qu'on pourrait établir entre la décision et la transformation, quelque chose qui replace l'imaginaire dans le champ du réel et du possible.
Ce qui est formidable à Nantes, je vais bien sûr très souvent me balader sur le chantier, j'étais encore à Boulogne-Billancourt récemment, et là j'étais un peu en fraude sur le grand chantier du trapèze. À Nantes, ce qui est formidable, c'est que les choses se font ça ou là, avec quelques clôtures de chantier, mais en gros, on peut circuler et voir en quelques années la chose se transformer.
Oui, c'est un chantier ouvert au public.
Voilà. Enfin, donc on sait qu'elle se transforme. En même temps, vous écriviez, vous me disiez quand on visitait ça il y a 2 ans environ, quelqu'un qui reviendrait après une longue absence sur l'île de Nantes reconnaîtrait le lieu inchangé et tout différent.
Oui, c'est le Michel de Lola revenant à Nantes et redécouvrant la ville. Et quand on imagine ce personnage, on se dit au fond, voilà, l'imaginaire de la transformation de la ville, des bâtiments, etc., c'est quelque chose qui a à voir avec une interprétation. Quand on transforme les nefs de la Loire, qui sont un bâtiment fermé, en une sorte de grand parapluie ouvert. D'une certaine façon, on peut le reconnaître, mais on peut aussi le découvrir autrement, quoi. Et cette idée que c'est le souvenir transformé fait qu'il y a quelque chose qui agit, qui a trait à la fois à la mémoire et une façon de se projeter vers l'avenir. C'est pour ça que je récusais tout à l'heure le terme de nostalgie, quoi.
Oui. Nostalgie veut dire qu'il y a une douleur, en principe.
Oui.
C'est la douleur du retour. Oui. Construire avec l'existant, vous êtes quelqu'un qui prenait de construire avec des choses qui existent. À propos d'un aménagement même d'un bord de canal à Nancy, vous disiez « j'aime entretenir cette confusion entre ce qui a toujours été et ce que j'ai fait. Bon, cette nostalgie, enfin, c'est ce genre de principe beaucoup long dans notre âge qu'on peut qualifier de postmoderne, l'âge qui dure depuis 25 ou 30 ans. Grimbach, quand il dit « il faut faire la ville sur la ville », qu'a repris Nicolas Sarkozy dans son discours récemment, Rem Koolhaas quand il dit « amnistie pour l'existant », les défenseurs des monuments historiques, Patrick Bouchain dans un autre genre, les bobos, aujourd'hui beaucoup de gens conviennent qu'il faut conserver des choses ou des traces, ce qui n'était pas le cas autrefois, bon, il y a quelques années, 30 ans ou 40 ans. Mais dans une période où les imaginaires, vous en conviendrez, sont divers, sont mouvants, est-ce que cette... comment désigner ce qui fait sens? Ce qu'il faut conserver.
Mais c'est justement ce qui fait œuvre dans le projet, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette forme de décision-là qui ne peut pas être une décision a priori, qui ne peut pas être une position de départ ou de principe, mais qui est en vérité une façon de faire avec, c'est-à-dire, mais dans le sens le plus pragmatique. Parce que derrière cette question, il y a aussi une question qui est liée à ce que j'appellerais l'économie de la mesure ou l'économie inventive, comme on voudra, parce que ou le développement durable, si on emploie une autre terminologie, parce qu'il y a aussi une source d'économie derrière ça. Il y a une source d'économie de temps et une source d'économie d'argent. Et ces éléments réunis et remis, au fond, dans la dynamique du projet, et pas dans une espèce de décision de programme a priori, ou dans une posture a priori, me paraît extrêmement intéressant, parce que, justement, ça n'est pas une position dogmatique sur la conservation. C'est simplement l'idée que l'état des lieux, au fond, n'est pas une chose donnée au départ d'un projet, mais qu'il apparaît de plus en plus finement plus on avance dans le projet. C'est-à-dire l'état des lieux de la réalisation sur le chantier n'est pas le même que l'état des lieux de la première visite. Et cette idée que le projet est une découverte des lieux, et une découverte des lieux y compris de choses qui étaient cachées et dissimulées, fait que, d'une certaine façon, on a toujours affaire avec ce rapport et avec cette découverte de l'existant, quoi. Il n'est pas une contrainte, mais finalement une ressource.
Est-ce que, à certains égards, le danger de tout ça, comme le danger des œuvres de Patrick Bouchain, que j'estime parfaitement hein, par ailleurs, n'est pas le risque de nous priver de choses qui nous étonneraient, nous priver du goût du futur, d'un certain goût de la table rase? Est-ce que les choses ne vont pas se dissoudre et qu'il nous manquerait une chose dont on a par ailleurs besoin et envie, l'image forte, l'avenir, et qu'on ait le sentiment parfois d'un rapiessage?
Je pense pas du tout que le travail que fait Patrick Bouchain soit en rapport avec l'idée du rapiessage. Je pense que, par exemple, ce qu'il a fait sur le centre commercial Beaulieu dans l'île de Nantes est au contraire une façon de s'emparer des lieux de la vie quotidienne et des programmes de la ville contemporaine pour savoir à quelles conditions et comment peut-on les adopter. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le point de vue qui consisterait à dire c'est une espèce de ville comme ça, réservée à quelques bobos, etc. C'est au contraire une façon de prendre la ville dans ce qu'elle a de plus contemporain, parfois de plus rêche, et de se dire, au fond, à quelles conditions peut-on la ramener dans le champ de l'espace public dont elle s'est parfois éloignée. On est en train de faire une étude en ce moment sur le territoire de la ville de Nanterre et sur les prolongements, par exemple, de la Défense. On est là dans des territoires extrêmement violents et qui sont marqués par des forces d'aménagement comme ça qui sont tout à fait inspirées par l'idée de la table rase, du renouveau absolu, etc. Et finalement, on se dit qu'il y a une sorte de nécessité finalement de revenir sur ces lieux autrement et de les considérer autrement, parce que c'est même la condition du véritable renouveau. Sinon, le renouveau dont on parle, il est un renouveau qui est lié à une sorte de coupure d'avec le réel, quoi. Et ce renouveau-là a quelque chose de très artificiel et d'éphémère. Moi, je pense que la condition du renouvellement, c'est une façon de se confronter à cette mémoire, mais à cette mémoire immédiate, c'est-à-dire pas seulement celle des lieux industriels du 19e siècle, mais celle d'hier, de ce qu'on produit aujourd'hui, y compris, c'est-à-dire de véritablement faire que ça soit pas... Parce que quand on parle de promenade et de découverte des lieux, on revient sur cette idée de la nostalgie. Or, j'ai le sentiment qu'on est là dans une espèce d'urgence tout à fait contemporaine. Et mon pari à moi, c'est le fait... C'est celui-là, quoi. C'est le fait de sortir de sortir dans la ville, dans les rues de la ville, et se dire que l'architecture descendant dans la rue de la ville, elle y trouve une source de son renouveau.
Merci Alexandre Chemetov. Nous, on va terminer avec une chanson qui parle de jardin. J'ai perdu ma femme la semaine dernière, comme vous le savez, et c'est un hommage un peu. Ça s'appelle « Dépression au-dessus d'un jardin » de Gainsbourg. C'est une chanson de 81 qu'on va entendre dans deux interprétations différentes de Jane Birkin, une version de 2002 qui est simplement dite, extraite de l'album Arabesque, qui est enchaînée avec une version chantée plus ancienne de 96.
Dépression au-dessus d'un jardin, ton expression est au chagrin. Tu as lâché ma main comme si de rien n'était de l'été. C'est la fin. Les fleurs ont perdu leur parfum. Comporte un à un le temps assassin. Dépression au-dessus d'un jardin. J'ai l'impression que c'est la fin. Je te sens soudain tellement lointain. Tu t'es égaré en chemin. Tu essayes de me faire croire en vain que l'amour reviendra l'été prochain.
Dépression au-dessus du jardin, ton expression est ton chagrin. Tu as lâché ma main comme si de rien n'était de l'été. C'est la fin, les fleurs ont perdu leur parfum. Qu'importe là, le temps assassin.
Alexandre Chemetov, votre exposition se tient à Bordeaux, au Centre Arc en Rêve, jusqu'au 18 octobre. Un livre est paru, un très gros livre de 472 pages, plus un DVD qui retranscrit les films, je pense, hein, je n'ai pas regardé le DVD. C'est chez Archibooks, 44 €. Et on trouvera sur notre site internet 7 ou 8 ouvrages sur Nantes. Et puis un ouvrage qui est paru tout récemment sous la direction d'Arnaud Lafage et Yann Nussom, qui s'appelle « De l'enseignement du paysage en architecture », qui est un ouvrage bilingue, fruit d'un colloque franco-chinois. C'est paru à la Villette. C'était Métropolitain. Nous recevions le paysagiste, urbaniste, architecte Alexandre Chemetov. La semaine prochaine, nous recevons Ingrid Taillandier et Olivier Namias à propos d'une exposition sur les tours qui se tient au pavillon de l'Arsenal, puis Caroline Mathieu et Amélie Granet à propos d'une très riche exposition Gustave Eiffel qui se tient à l'Hôtel de Ville de Paris. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet qui offre divers services, bibliographie, calendrier, index, etc. Permet de télécharger l'émission durant une semaine, d'écouter pendant un mois, à n'importe quelle heure, où que vous soyez, et même peut-être cet été à Cannes, où faut les voir croiser tous ces parigots, qui comme des croisés s'en vont boire un pot, faut les voir glander, pas loin du bowling, comme dans un clandé, à rechercher du spleen. Faut les voir croiser à Cannes la braguette, avec leurs côtelettes et leurs petits jerseys. Léo Ferré, Cannes la braguette, 1961. Cette adresse est franceculture.com. C'était Métropolitain, une émission de François Chalin, réalisation Viviane Noël, avec ce matin la technique Ariane Herbet.